Je crois que c'est au collège qu'on apprend les noms de rois antiques célèbres, et je me souviens qu'ils sont difficiles à retenir à cause de leur consonance particulière. Pourtant, il en est un qui m'est resté parce que j'aimais bien le rythme de ses syllabes. Il s'agit de Nabucodonosor, grand conquérant et roi de Babylone. Or, il se trouve que ce personnage illustre fait la une des premières histoires du prophète Daniel. Je continue à lire dans le chapitre 2 du livre qui porte son nom. Le grand Dieu a révélé au roi ce qui arrivera dans l'avenir. Ce qu'annonce le rêve est chose certaine et son interprétation est authentique. Verset 45. Nabucodonosor a vu en songe une statue qui représente les uns à la suite des autres, quatre empires et même cinq dans la mesure où à la fin des temps, le quatrième réapparaîtra sous une nouvelle forme. C'est ce personnage sinistre que les Écritures appellent l'Antéchrist qui fera renaître l'Empire romain. Et tout comme le roi de Babylone, ce sera un dictateur tyrannique ayant une envergure mondiale. Le rêve de Nabucodonosor l'a profondément troublé parce que d'une part la statue qu'il a vue avait un aspect terrifiant, et d'autre part un événement incompréhensible a eu lieu dans son rêve. En effet, et comme Daniel l'explique, une pierre se détacha sans l'intervention d'aucune main, vint heurter la statue au niveau de ses pieds de fer et d'argile et les pulvérisa. Du même coup, furent réduites ensemble en poussière le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or, et ils devinrent comme la balle de blé qui s'envole de l'air durant la moisson. Le vent les emporta sans en laisser la moindre trace. Quant à la pierre qui avait heurté la statue, elle devint une immense montagne et remplit toute la terre. Fin de citation. La pierre qui s'est détachée est l'emblème du Messie descendant du ciel pour renverser toutes les puissances d'ici-bas et y substituer la sienne. En parlant de lui-même, Jésus a dit « Celui qui tombera contre cette pierre-là se brisera la nuque ». Et si elle tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. Cette chute et destruction rapide et totale de la statue était prévisible du fait que ses pieds étaient composés d'argile et de fer, deux éléments qui ne peuvent se marier. Cette pierre qui a fracassé la statue signifie que toutes les puissances de ce monde seront anéanties dans un immense cataclysme quand Jésus-Christ reviendra en gloire pour prendre par la force les rênes de ce monde qu'il gouvernera avec une poigne de fer. La montagne qui remplit la terre représente le royaume messianique qui prendra la place de tous les pouvoirs politiques et militaires de la planète. Dans un psaume prophétique, il est écrit « Avec un sceptre de fer, tu les soumettras, comme des vases d'argile, tu les briseras. » Et dans le livre de l'Apocalypse, on lit « De sa bouche, en parlant de Jésus-Christ, sort une épée aiguisée pour frapper les nations. C'est lui qui sera leur berger, car il les dirigera avec un sceptre de fer. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Finalement, l'homme n'a vraiment que deux options. Mais que ce soit l'une ou l'autre, il devra courber les chines devant le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. S'il choisit de s'humilier volontairement devant le Christ, Dieu lui fait grâce et il reçoit le pardon de ses fautes. Mais s'il refuse, la pierre viendra à lui pour le juger. Daniel conclut son discours au roi de Babylone en disant « Ce qu'annonce le rêve est chose certaine », ce qui veut dire qu'une réalité lui correspond. En d'autres mots, il s'agit d'un rêve prémonitoire. L'interprétation que Daniel a donnée à Nabucodonosor n'est pas farfelue, parce qu'il a prouvé qu'il parlait au nom et avec l'aval du Dieu des cieux en racontant d'abord le contenu du rêve. Et c'est ensuite seulement qu'il l'a expliqué. Le roi de Babylone est peut-être un tyran exécrable, mais il a très bien compris que Daniel disait vrai. Je continue le texte. Alors le roi Nabucodonosor se jeta la face contre terre et se prosterna devant Daniel. Il ordonna de lui offrir des offrandes et des parfums. Verset 46. Alors qu'il écoutait le récit de Daniel, le roi avait les yeux qui lui sortaient des orbites. Maintenant, il a la tête qui tourne, il est abasourdi par tout ce qu'il vient d'entendre, mais il ne met pas un instant en doute l'interprétation de Daniel. Il ordonne alors qu'on l'honore comme s'il était l'une des nombreuses divinités de Babylone. Il ne fait pas l'ombre d'un doute que devant ces hommages de Nabuchodonosor, Daniel est resté de marbre. Il n'a pas gonflé la poitrine. Ses flatteries n'ont pas eu le moindre effet sur lui. Néanmoins, il les a acceptées pour plusieurs raisons. D'abord, il est celui en qui le Dieu suprême vient de manifester son insurpassable sagesse et force. Ensuite, ce roi païen et idolâtre a besoin d'adresser sa reconnaissance à quelque chose de palpable, qu'il peut voir et saisir, car il ne peut pas comprendre que le seul vrai Dieu est invisible et doit être seulement adoré en esprit et en vérité. En troisième lieu, Daniel se dit que plus il sera élevé en dignité, dans l'opinion du roi, et plus il pourra améliorer le sort de ses concitoyens exilés. Je continue le texte. Puis Nabuchodonosor lui déclara, « Il est bien vrai que votre Dieu est le Dieu des dieux, le souverain des rois et celui qui révèle les secrets, puisque tu as pu me dévoiler ce secret. » Verset 47. Le roi fait des gros progrès spirituels puisqu'il reconnaît que le Dieu de Daniel est supérieur aux autres. Mais s'il n'a pas encore compris qu'en dehors de l'Éternel, il n'y a pas de Dieu, il a fait un pas dans la bonne direction. Il a également accepté, sans broncher, que le Dieu des cieux est le seul qui révèle les secrets et que c'est lui qui l'a établi roi. Non seulement l'Éternel a placé Nabuchodonosor à la tête de l'Empire babylonien, mais il condescend à se révéler à lui au moyen d'un rêve que Daniel lui a interprété. Dans sa souveraineté, Dieu choisit de se faire connaître à une personne plutôt qu'à une autre, et dans ce cas précis, ce n'est pas dû au fait que ce roi était un brave homme. Au contraire, il n'avait vraiment rien pour plaire. C'est le mystère de la grâce de Dieu. Je continue. Le roi éleva Daniel à une haute position et lui donna de nombreux et riches présents. Il le nomma gouverneur de toute la province de Babylone et l'institua chef suprême de tous les sages de Babylone. Verset 48. Le roi nomme Daniel grand vizir, chef de cabinet ou quelque chose comme ça. Le voilà donc qui occupe un poste élevé et en position de venir en aide à ses concitoyens. L'Empire babylonien était divisé en provinces et chacune d'elles était dirigée par un satrape. Daniel reçoit la charge la plus prestigieuse puisque désormais c'est lui le patron de Babylone où se trouve la cour royale. Et comme il fut le seul sage capable d'interpréter le rêve du roi, en toute logique, c'est lui qui devient leur chef. Cette élévation rappelle ce qui était arrivé à Joseph, fils de Jacob, après qu'il ait expliqué au Pharaon ce que signifiait son rêve concernant les vaches grasses et les vaches maigres. Je lis le passage. Le Pharaon dit à Joseph, « Tu seras donc à la tête de mon royaume et tout mon peuple obéira à tes ordres. Moi-même, je ne serai au-dessus de toi que par le trône. » Ainsi lui dit-il, « Je te mets à la tête de toute l'Égypte. » Et le Pharaon retira son anneau de sa main et le passa au doigt de Joseph. Il le fit revêtir d'habits de fin lin et lui suspendit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur son deuxième char et sur son parcours on cria « À genoux !» C'est ainsi qu'il le mit à la tête de toute l'Égypte. Joseph, puis plus tard Daniel, occupa un poste clé dans une administration païenne idolâtre dirigée par un roi puissant. En fait, tous deux devinrent quelque chose comme premier ministre du royaume. Je finis le chapitre 2 du livre de Daniel. À la demande de Daniel, le roi confia l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel lui-même demeura à la cour du roi. Verset 49. Daniel n'oublie pas ses compagnons d'armes qui reçoivent eux aussi des postes élevés. Ils deviennent ses auxiliaires et ses subordonnés dans l'administration de Babylone. Ayant coopéré avec lui dans la prière, ils ont droit à la récompense. Cet exemple et d'autres semblables montre qu'il est non seulement acceptable, mais que c'est une bonne chose que de faire profiter ses amis d'une promotion quand on en a la possibilité. Par contre, pistonner quelqu'un à un poste qu'il n'est pas capable d'assumer ou qu'il utilisera pour ses fins personnelles est une démarche tragique, une magouille répréhensible. Mais aider quelqu'un à progresser dans sa carrière professionnelle est une bonne action. D'ailleurs, un proverbe dit « Ne refuse pas un bienfait à celui qui en a besoin, quand il est en ton pouvoir de l'accorder. » Le chapitre 2 de Daniel a donc présenté deux grands thèmes. D'une part, la divination sous toutes ses formes est entièrement discréditée au profit de la révélation prophétique qui est mise à l'honneur, et d'autre part, la destitution future des puissances terrestres sous ses formes successives qui seront remplacées par le royaume de Dieu. L'Éternel que l'auteur représente est à l'opposé de la raison et philosophie humaine. Pour Daniel, le règne du Dieu unique n'est pas seulement une idée, mais un fait historique qui se développe au fil des siècles et qui aboutira à un nouvel ordre des choses et à une organisation parfaite de l'humanité sous le sceptre du Messie, le roi divin. Que ton règne vienne est la pensée qui anime tout le livre de Daniel. Nous arrivons au chapitre 3 de ce livre qui raconte la délivrance miraculeuse de trois jeunes Hébreux qui sont jetés dans une fournaise pour avoir refusé d'adorer la statue d'or de Nabuchodonosor. Cet événement fait suite au rêve de la statue du chapitre précédent. Le roi de Babylone est au sommet de sa gloire. Il règne sur un vaste empire, comme le montre le refrain de la même formule araméenne traduite par « peuple et nation de toute langue » ou quelque chose de similaire qui ponctue le récit du chapitre 3. Je commence à le lire. Le roi Nabuchodonosor fit faire une statue d'or de 30 mètres de haut et de 3 mètres de large. Il la fit ériger dans la plaine de Doura, dans la province de Babylone. Verset 1. D'après le vocabulaire employé, cette statue d'or est de forme humaine, tout comme celle du rêve du roi dans le chapitre précédent. Elle représente la puissance de l'Empire babylonien personnifiée comme il se doit dans la divinité suprême de la nation, le dieu Bel ou Marduk, et de son serviteur le grand, l'immense Nabuchodonosor. Cette statue est dite en or parce que c'est ce qui frappait les regards, mais en réalité, et à l'instar de beaucoup d'objets retrouvés dans les ruines de Babylone, elle était seulement plaquée or. Il en était de même de l'autel de bois d'acacia recouvert d'or qui se trouvait dans le tabernacle hébreu et qui est pourtant appelé autel d'or. De toute façon, il n'est guère possible qu'un monument aussi colossal ait été en or massif, encore que l'or ne manquait pas à Babylone car le pillage des nations conquises avait permis au roi d'entasser des quantités énormes de métaux précieux. Littéralement, le texte dit que cette statue fait 60 coudées de haut et 6 de large. Or, la coudée babylonienne ordinaire mesurait 525 mm. L'idole avait donc exactement 31 mètres 50 de hauteur et 3 mètres 15 de largeur, ce qui fait qu'elle rivalisait avec les palmiers et dattiers qui abondaient en cette région. Cette statue est dans un rapport hauteur-largeur de 10 sur 1, ce qui ne correspond pas aux proportions du corps humain, qui est environ 6 sur 1. Il est donc quasi certain qu'elle reposait sur un imposant piédestal et que c'est l'ensemble qui faisait 31 mètres de haut. Quoi qu'il en soit, même si une statue d'une telle hauteur est imposante, elle n'a rien d'extraordinaire puisqu'elle est plus petite que celle du colosse de Rhodes, qui avait 70 coudées de haut et ne dépasse pas les statues de Munich ou encore de Borromée situées sur les îles du lac Majeur. Cette idole impressionnante par sa taille et son éclat se trouvait dans la plaine de Dura. Or, à cette époque, il existait plusieurs villes de ce nom qui désignent n'importe quel endroit entouré d'un mur ou de montagne. Par contre, Dura devait être une localité dans le voisinage de la capitale. Or, dans la direction sud-est, À une dizaine de kilomètres de l'emplacement de l'ancienne Babylone, on a découvert un fleuve et une suite de collines portant le nom de Dura. La plus petite d'entre elles n'est rien d'autre qu'un cube de briques dont la base fait 14 mètres de côté et la hauteur 6 mètres. Selon un orientaliste célèbre, ce serait le piédestal de la statue dont il est question dans ce chapitre. Je continue le texte. Puis le roi convoqua les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juristes, les magistrats et tous les dirigeants des provinces pour l'inauguration de la statue qu'il avait fait dresser. Verset 2. Nabuchodonosor organise une sorte de conférence au sommet visant à le glorifier, ce qui est un acte de défiance à l'égard du Dieu des cieux qui l'a placé sur le trône. Les fonctions des personnalités représentées montrent que tous ceux qui avaient une quelconque responsabilité dans l'empire avaient été invités au vernissage de l'idole, sans la possibilité de refuser. 8 différentes classes d'autorités civiles et militaires sont mentionnées. Les satrapes représentaient le roi dans les diverses régions de l'empire. Les préfets étaient des chefs de guerre, les gouverneurs étaient des hauts fonctionnaires, les conseillers étaient des secrétaires particuliers, les trésoriers s'occupaient des finances du royaume, et les juristes et les magistrats représentaient la justice. Quant aux dirigeants des provinces, c'était le menu frottin au service des satrapes. La dédicace de l'autoportrait du roi devait se faire dans la plus grande pompe. Toutes les personnalités présentes avaient été conviées dans un seul but, celui de jurer une fidélité totale et entière et de se donner corps et âme à leur roi bien-aimé. Je continue. Alors les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juristes, les magistrats et tous les dirigeants des provinces s'assemblèrent pour l'inauguration de la statue que le roi Nabuchodonosor avait érigée et ils se tinrent debout face à la statue élevée par le roi. Verset 3. La répétition des 8 différentes classes d'autorités civiles et militaires qui constituent le gratin de l'Empire souligne l'importance politique et sociale exceptionnelle de cet événement sans précédent. Nabuchodonosor veut unifier son empire et en faire un immense gouvernement totalitaire avec une seule religion. Il veut recommencer une tour de Babel, en quelque sorte. Le jour de la grande dédicace est arrivé et tout le monde est présent, sauf Daniel, car il n'est jamais mentionné dans la suite de ce récit. Il avait évidemment une bonne raison de ne pas être de la partie, mais elle ne nous est pas donnée. Cependant, comme Daniel était le principal conseiller de l'empereur et son représentant personnel, il y a tout à parier qu'il se trouvait en mission en terre étrangère. Cette nouvelle statue pose des problèmes et engendre des questions. Nabuchodonosor avait rêvé d'une première statue et après que Daniel lui en ait donné la signification, il s'était mis à plat ventre devant lui et avait déclaré « Il est bien vrai que votre Dieu est le Dieu des dieux, le souverain des rois et celui qui révèle les secrets, puisque tu as pu me dévoiler ce secret ». Cet événement aurait dû rabattre le caquet du roi de Babylone, mais c'est exactement le contraire qui s'est passé. Au lieu de s'humilier devant le Dieu des cieux, il s'est inspiré de la statue qu'il avait vue en rêve et de la tête en or qui le représentait pour se faire construire une idole ayant les dimensions de son arrogance et qui correspond à rien de moins qu'une auto-déification de sa personne. Car il ne faut pas s'y tromper, cette statue instaure le culte de Nabuchodonosor et la glorification de la nation sur laquelle il règne. Avec le temps, ce roi qui est au summum de sa puissance compte bien remplacer dans l'esprit de son peuple les dieux babyloniens traditionnels. Comment est-il possible que Nabuchodonosor ait pu tomber si bas en commettant un tel acte d'arrogance après l'expérience extraordinaire qu'il a faite avec l'Éternel qui lui a parlé dans son rêve? C'est insensé, mais telle est justement l'essence du mal. Il n'a pas de sens. la révolte de la créature contre son créateur est un comportement totalement irrationnel. À plusieurs reprises, j'ai déjà eu l'occasion de mentionner cette parole sublime du prophète Jérémie qui a dit « Le cœur de l'homme est trompeur par-dessus tout et il est désespérément malin. Qui pourra le connaître ?» C'est là en effet la seule explication plausible à l'action absurde de Nabuchodonosor. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, son attitude ne va pas aller en s'améliorant. Comme il va persister dans son orgueil et ses fautes grossières, il aura un nouveau rêve prémonitoire qui lui annoncera son jugement s'il ne se détourne pas de ses péchés. Seulement, au lieu de se repentir, il va braver Dieu et dire « N'est-ce pas là, Babylone la Grande, que moi j'ai bâtie pour en faire une résidence royale ? C'est par la grandeur de ma puissance et pour la gloire de ma majesté que j'ai fait cela. » Cette fois-ci, la coupe déborde et le roi va littéralement se mordre les doigts de sa conduite inique. Il devra ravaler son orgueil qui aura un goût très amer. La suite du texte dit « La sentence prononcée contre Nabuchodonosor fut exécutée. Il fut chassé du milieu des hommes, il se mit à manger de l'herbe comme les bœufs et son corps fut mouillé par la rosée du ciel. » Sa chevelure devint aussi longue que des plumes d'aigle et ses ongles ressemblaient aux griffes des oiseaux.